Alors, c'est encore un privilège pour moi de vous partager le message de la parole de Dieu ce matin. Et ce matin, je voudrais vous parler de la substitution, ou plus simplement de la justice de Dieu. Comment la justice de Dieu a été satisfaite? On pourra donner comme titre, Yolande, le sacrifice parfait, ça va être moins compliqué. La substitution, c'est comment le pécheur a été gracié de son péché, de la condamnation. Alors, avant d'attaquer ce passage, ce message, je voudrais qu'on se coupe ensemble et qu'on remette ça dans les mains du Seigneur. Merci, Père, pour ta parole, pour le privilège qu'on a de t'appartenir. Merci pour ce si grand salut que tu nous as donné, ce salut si précieux, ce salut gratuit, Seigneur. Salut qui t'a coûté un grand prix, Seigneur, mais pour nous, Seigneur, est totalement gratuit, Seigneur Dieu. On te loue vraiment pour ça, Père, et on te prie de nous bénir, de parler, nous parler à nos cœurs par ta parole ce matin. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est l'agneau qui est offert en sacrifice à la place du pécheur. En gros, c'est ça, la substitution. Ce matin, je voudrais parcourir presque la Bible d'un couvert à l'autre, puis voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur ce sujet-là. Alors, de la Genèse au moins jusqu'au livre des Hébreux. L'apôtre Paul, dans Galates, au chapitre 3, verset 24, il dit ceci. Il dit, « La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Et non seulement la loi a été un pédagogue pour nous mener à Christ, mais lorsqu'on lit l'Ancien Testament, tout le récit qui nous est conté dans l'Ancien Testament, toutes les interventions de Dieu au cours des siècles sur le peuple juif, entre autres, à partir de la création, puis jusqu'au peuple juif, tout le système sacrificiel, le sacerdoce, l'histoire du peuple juif, finalement de la première à la dernière page de l'Ancien Testament et aussi du Nouveau Testament, l'objectif, c'est de nous conduire à Christ, c'est de nous faire tourner les regards vers Christ. Dès la chute, Dieu a commencé à montrer à l'homme sa justice. Quand Dieu dit quelque chose, c'est pas des paroles en l'air. Dans Genèse, au chapitre 3, les versets 1 à 3, on peut lire ceci. « Le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel... Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, on mange de tous les fruits des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et pas seulement vous n'en mangerez point, mais vous n'y toucherez point. » de peur que vous ne mouriez. » Malheureusement, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé qu'ils ont désobéi. Le résultat de ça, ça a été la désobéissance. Au verset, toujours dans Genèse 3, au verset 7 et 8, « Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant connu, cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Ah, tout d'un coup, là, ils se sont aperçus qu'ils avaient péché. Avant ça, ils n'avaient pas de péché avant ça. Dieu les avait créés libres, puis le péché n'avait pas encore été consommé, il n'y avait pas de péché. Mais à partir de ce moment-là, là, ils ont compris qu'ils avaient péché. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. C'est quoi que j'entends, donc? C'est-tu un retour dans le micro?
Non.
OK. Alors, qu'est-ce que ça a été la réaction de l'homme et de la femme? Deux choses. Ils ont vu qu'il était nu, qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Puis pour remédier à ça, ils se sont fait des habits avec des feuilles de figuier. semble pas que c'était très solide. Puis ils se sont cachés. Ils se sont cachés. Ils se sont cachés. Alors, le résultat de la désobéissance, ça a été quoi? Ça a été la séparation, le bris de la communion entre Dieu et l'homme. La honte. Ils ont pris connaissance de leur nudité. Alors, leur solution, c'était de se cacher. On va voir qu'est-ce que Dieu a dit. Genèse, au chapitre 3, les versets 20-21. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Alors, les feuilles de figuier, ça semble pas d'avoir été approuvé par Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris, leur a fait des habits de peau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire des habits de peau? Ça prend un animal et ça prend un animal mort pour y enlever sa peau. Alors, c'est ni plus ni moins que le premier sacrifice pour couvrir le péché de l'homme. C'est le premier sacrifice, puis c'est le premier d'une longue série de sacrifices. Alors, c'est ni plus ni moins que le premier sacrifice d'animal. On passe à Caïn maintenant, au chapitre 4, Genèse 4, versets 3 et 4. Au verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas de regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu élèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Ici, au chapitre 4 de la Genèse, il nous est raconté encore un autre sacrifice. On ne sait pas exactement la nature de l'offrande. On s'imagine que c'était une offrande pour plaire à Dieu, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis Dieu, c'était pour plaire à Dieu, puis Dieu il accepte, il agrée l'offrande d'Abel, mais pas celui de Caïn. Un animal est offert en sacrifice. C'est un drôle de rituel, c'est étrange un peu. À cette époque-là, je me demande, qu'est-ce que Abel a pu penser? Comment il a pu interpréter ça, que son offrande était agréée? Bon, alors, quand on lit le récit comme il faut, on s'aperçoit que le problème, bien, c'était le cœur de Caïn qui était le problème. C'était pas nécessairement juste l'offrande. On saute à Noé maintenant, au chapitre 8, les versets 20 à 22 de la Genèse. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Alors là, le déluge a eu lieu. Puis Noé, il sort de l'arche après que les eaux se sont retirées. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes à l'Éternel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit dans son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit. » Alors ici, Noé offre une holocauste, des holocaustes en offrande à l'Éternel. Encore ici, on ne s'est pas mentionné quelle sorte d'offrande c'est, mais on peut penser que c'est une offrande d'action de grâce parce que là, Noé et sa famille sont les seuls survivants de ce déluge-là. Alors, certainement que il devait avoir une composante d'action de grâce. Quoi qu'il en soit, ce fut agréable à l'Éternel. Encore là, on peut se demander qu'est-ce que Noé et sa famille comprenaient de ça. À quelle place que Dieu veut s'en aller avec ça? Genèse 22, maintenant, les versets 1 et 2. Là, l'offrande, elle va se préciser un peu plus. Genèse 22, le verset 1. « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham, et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Alors ici, Abraham obéit à Dieu, puis il part pour le mont Morija. Et cette fois, ce n'est pas pour offrir un animal, mais c'est encore une étrange demande de Dieu. Dieu lui demande d'offrir son fils unique. Bon, le mont Morija, en passant, c'est Jérusalem, c'est le mont du Temple, c'est là où est érigée la mosquée islamique. C'est en plein cœur de Jérusalem, la ville sainte, où les Juifs viennent encore aujourd'hui pour rechercher la présence de Dieu, pour adorer, supposément, pour lui rendre un culte. Regardez la suite. Genèse 22, à partir du verset 3. « Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. » Là, moi, si j'avais été à la place d'Abraham, avant de partir, j'aurais posé des questions un peu. J'aurais voulu savoir un peu plus là que juste... Il savait où il s'en allait, puis mais il savait quoi faire aussi, mais il connaissait pas les raisons. Les motivations de Dieu. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu au loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Alors là, Abraham, il parle au pluriel. Abraham, il avait l'espoir que ça se passerait pas comme... juste ce que la première manière qu'il avait compris ça de Dieu. « Nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père! » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. » « Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent ensemble. Alors, Abraham, il avait confiance dans le Seigneur. Abraham, il avait déjà, on va vite, on saute des choses, mais Abraham, il avait fait confiance à Dieu pour partir de Ur en Chaldée, traverser la Mésopotamie puis s'en venir jusqu'en Palestine. Il avait fait confiance à Dieu pour ça. Alors, il y avait un vécu avec le Seigneur. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau. Un sacrifice, un agneau, Jérusalem. Bon, là, ça commence à nous parler un petit peu plus, à nous dire quelque chose. Mais encore là, je me demande ce qu'Abraham et ses proches pouvaient comprendre de ces choses-là. À quelle place que Dieu s'en va avec ça? C'est quoi la motivation de Dieu, c'est quoi que Dieu veut nous faire comprendre? Pour nous, maintenant, on sait où est-ce que Dieu s'en allait avec ça. Du moins, si vous ne le savez pas, vous allez le savoir ce matin. Alors, on continue dans Genèse 26 maintenant, c'est Isaac. Genèse 26, à partir du verset 23 à 25. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » À cause de la foi d'Abraham, Dieu dit à Isaac, je vais te bénir. Alors, Abraham, on sait qu'il a offert, il a obéi à Dieu, puis il est allé pour offrir son fils en sacrifice. Puis on sait que, j'ai sauté une diapositive, là. On sait que, effectivement, Dieu il a pourvu à quoi? Un bélier pris par les cornes pour l'Holocauste. Alors, il y a eu la substitution au lieu que Isaac soit offert en sacrifice pour ses péchés, pour expier les péchés de, on peut supposer, d'Abraham. C'était le bélier qui a pris sa place. Alors, Isaac, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa une tente. Et des serviteurs d'Isaac creusèrent un puits. Alors, l'autel, on voit dans les différents moments, différents endroits où il y a des autels, où ils bâtissent des autels, c'était un lieu de sacrifice. Ça représentait, c'était un lieu où ils pouvaient venir dans la présence de Dieu, un lieu de rencontre avec Dieu. Avant la chute, c'était quoi le lieu de rencontre avec Dieu? C'était permanent. Mais après la chute, la communion était brisée. Genèse 35, versets 1 à 3, on est rendu à Jacob. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Alors, encore là, Jacob dresse un autel en reconnaissance pour, en l'honneur de l'Éternel qui l'avait délivré. La suite de ça, il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, c'est-à-dire c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Alors, l'autel, c'était un lieu de rencontre, un lieu qui remémorait la rencontre avec l'Éternel, la présence de Dieu. Maintenant, on s'en va à Moïse, dans Exode, c'est-à-dire dans Exode au chapitre 12, les versets 1 à 12. Alors, les passages sont longs, mais ça évite beaucoup d'explications parce que le texte explique comme il faut qu'est-ce qui s'est passé. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, pas un qui boite ou qui est malade ou qui est chétif. Un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. » Alors, on comprend dans ça que l'agneau ou le chevreau d'un an, il était gardé pendant deux semaines ou ça semblerait que c'était dans la maison. On prendra son sang et on le mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Alors ça, ce récit-là, ben, on parle de ça dans le temps de Pâques. Mais Cette nuit même, on le mangera, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Alors là, il y a toute une signification de ces des pains sans levain, de l'herbe amère. Le levain, ça représentait le péché. Alors, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails de tout ça ce matin, mais il y a des significations à ça. Vous le mangerez, vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez en hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Alors là, on sait que les enfants d'Israël, Joseph a été vendu par ses frères qui l'ont amené en Égypte. Ils l'ont vendu à une caravane d'Ismaélites qui l'ont amené en Égypte. Il a été vendu aux serviteurs de Pharaon, Potiphar. Puis là, vous connaissez l'histoire, sans doute, la prison, tout ça. Mais 400 ans plus tard, cette famille-là, Joseph a fait venir son père puis ses frères. Puis là, le peuple s'est accru. Le peuple s'est accru grandement. Puis, il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Et là, les 10 plaies d'Égypte, qu'est-ce que c'était? C'était Dieu qui voulait délivrer les enfants d'Israël de la servitude des Égyptiens, parce que le peuple d'Israël s'est tellement accru que les Égyptiens les craignaient puis les persécutaient. Alors, là, on est dans la nuit qui précède leur fuite du pays d'Égypte. Ils ont les souliers dans les pieds, ils sont habillés, ils ont le bâton à la main, ils sont prêts à partir. C'est ça que Dieu leur a dit de faire. Toujours dans Exode 12, le verset 12, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. » Alors, le sang de l'agneau, il vient se substituer au péché des enfants d'Israël. Ce que la condamnation que les premiers-nés des enfants d'Égypte méritaient, les enfants d'Israël le méritaient aussi. Parce que l'homme, à partir de la chute, est pécheur. Puis l'homme, à partir de la chute, mérite la condamnation. Mais là, ici, l'agneau va être un substitut pour la mort des premiers-nés des enfants d'Israël. Alors, c'est l'instauration de la Pâque. L'agneau expiatoire en substitution devient pour tout le peuple le moyen de salut. Alors, le peuple, c'est dans Lévitique, je crois qu'on nous dit ça, il y avait 603 650 hommes de 20 ans et plus, à part des femmes et des enfants. Alors, les gens estiment qu'il y avait de 2 à 3 millions, le peuple juif qui sont sortis, qui ont traversé la mer Rouge cette nuit-là, ce matin-là, c'était de 2 à 3 millions de personnes. Alors, vous pouvez vous imaginer les milliers d'agneaux immolés, puis le peuple qui célèbre la Pâque en pleine nuit, les chaussures aux pieds, les bâtons aux mains. L'agneau, encore ici, prend la place des premiers-nés de toutes les maisons d'Israël. Exode, au chapitre 20, les versets 1 et 2. C'est la loi, Moïse. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Les enfants d'Israël sortent d'Égypte avec l'armée des Égyptiens à leur trousse. Israël traverse le Jourdain à sec, alors que les Égyptiens, que l'armée égyptienne est engloutie par les flots. Et là, les enfants d'Israël sont dans le désert, puis Dieu va leur donner la loi. Puis ça commence comme ça, la loi. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'Éternel est le seul Dieu, le seul Créateur, le seul Sauveur. » Alors, le point le plus important de la loi, le point central de la loi, c'est que c'est Dieu qui est le Créateur, il y a un seul Dieu, puis c'est Dieu qui est le Sauveur. Il n'y a pas d'autre Sauveur, c'est Dieu qui est le Sauveur. Puis on va voir que l'agneau sacrifié, oui, ça les a sauvés, mais c'est pas un salut spirituel. Ensuite de ça, il y a tout le sacerdoce. Alors, il y a les commandements de Dieu, la loi qui vient, tout le sacerdoce. Dieu choisit parmi les fils de Jacob. Alors, les fils de Jacob, ils sont 12. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Jacob, Joseph. Les deux tribus deviennent Éphraïm et Manassé, les fils de Joseph, et Benjamin. Alors, Dieu va choisir le troisième des fils de Jacob, c'est Lévi. Alors, ça va être la tribu de Lévi qui va gérer le sacerdoce, qui va s'occuper de tout ce qui concerne le culte. Puis, une de leurs principales préoccupation, c'est d'offrir des offrandes pour le peuple. Alors, les offrandes d'action de grâce, les offrandes d'expiation, diverses offrandes. La substitution prend alors une grande importance. Un animal offert prend la place du pécheur. Alors, ça, c'était le quotidien des enfants d'Israël. Lorsqu'ils péchaient, la relation avec Dieu était comme brisée. Il fallait qu'il y ait un sacrifice pour couvrir le péché. Ça n'enlevait pas le péché, mais ça le cachait. Comme par exemple quand les enfants d'Israël se sont cachés dans le jardin. Alors, les sacrificateurs offrent des animaux sur l'autel. Premièrement, pour ses propres péchés, ensuite, tout ça pour ceux du peuple. On va voir ça tantôt. Cet exercice était toujours à recommencer. Pourquoi? Parce que ces pauvres Israélites-là ne parvenaient pas à dompter le péché. Ils devaient toujours revenir avec des nouvelles offrandes. Est-ce que nous, on est parvenus à dompter le péché humainement? Pas plus qu'eux autres. Alors, à cette époque-là, dans le désert, il n'y avait pas de roi. Les enfants d'Israël étaient dirigés par Dieu directement. On voit que Dieu marchait devant eux dans la colonne de nuit, dans la colonne de nuit le jour et dans la colonne de feu la nuit. Après ça vient la période des juges des rois. Dieu donne au peuple des juges et des rois tels qu'il le désire. Alors, le peuple, il ne voulait plus être dirigé par Dieu. Ils ont demandé des juges et des rois. Mais malgré ça, le péché continuait de proliférer. Le sacerdoce lévitique continue de s'exercer. Puis là, ben, ça nous mène à la croix de Christ. Ça nous mène au descendant de David qui est promis comme sauveur. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21, c'est l'Ancien Testament se termine avec les petits prophètes, puis après ça, il y a un silence de 400 ans. On ne sait pas trop là, qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces 400 ans-là. Il y a eu la déportation, il y a eu, c'est sûr que le sacerdoce, là, ça a été rompu. rompu, repris à certaines occasions, mais il y a eu la déportation, puis il s'est passé des choses dans la vie du peuple d'Israël, mais la révélation de Dieu a été silence radio pendant 400 ans. Dans Matthieu, au chapitre 1, verset 21, on peut lire ceci. « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. » Alors, c'est Joseph. Lorsque Joseph a su que Marie était enceinte, sa fiancée était enceinte, puis qu'il ne voulait pas la déshonorer, parce que lui, il savait que c'était pas lui, là. Il dit, pensait de la répudier ou de l'éloigner de lui. Joseph, fils de David, alors l'ange lui apparut, il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, on voit que ça, c'est promis. C'est Dieu, il a fait cette promesse-là. Le prophète Ésaïe, il a prophétisé sur ce sauveur-là qui était pour sauver le peuple de ses péchés. Ésaïe 53, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. On va lire dans ça plutôt. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors ici, on voit que il n'est plus question de substitution d'une brebis ou d'un bouc, mais il est question de la substitution d'une personne, de la personne de Jésus. La personne de Jésus qui est nul autre que Dieu fait homme, Dieu venu sur la terre pour sauver les péchés du monde. Le sauveur promis arrive, c'est Jésus-Christ. Il va mettre fin au sacerdoce lévitique. Le sacerdoce lévitique, on va le voir, il est inefficace. Il n'y aura plus de sacrifice nécessaire pour le pardon des péchés. Le plan de Dieu pour le salut de l'humanité va s'exécuter. L'offrande ultime va être offerte. Cette offrande-là, c'est Christ, c'est la croix de Christ, le salut pour l'humanité. C'est la victoire sur le péché, la victoire sur la mort. Et c'est l'auteur du livre aux Hébreux qui va nous donner les explications de ça, qui va nous dévoiler l'accomplissement de ce qu'on voit, ce qu'on a vu, qu'on vient de lire dans le livre d'Ésaïe. Hébreux au chapitre 7, les versets 11 et 12. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédec et non selon l'ordre d'Aaron, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Alors là, le sacerdoce selon le Melchisédec, ça aussi, il y a toute une histoire autour de ça. On ne rentrera pas dans ça. Mais il faut dire que Melchisédec, c'est un personnage de l'Ancien Testament. Et lorsqu'Abraham est revenu d'une guerre contre des rois, il a rapporté du butin. Puis, quand il est arrivé vis-à-vis de ce sacrificateur-là, selon l'ordre de Melchisédek, Abraham lui a donné la dîme de tout le butin qu'il avait reçu. Et le sens de ce don-là de dîme, que Abraham remette la dîme à Melchisédek, c'était un geste d'adoration. C'est l'adoration qui est l'origine de notre dîme, l'origine de la dîme qu'on voit dans l'Ancien Testament. C'est pas pour financer le sacerdoce. L'origine de tout ça, la raison, c'est l'adoration. Alors, il dit, selon l'ordre de Melchisédek, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Alors, après 400 ans de silence, le Sauveur promis arrive. Puis c'est ça que il nous dit le livre des Hébreux. Hébreux, au chapitre 7, toujours, verset 23, il dit, « De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. » Alors, les Lévites, les sacrificateurs, les Lévitiques, les Lévites, ils exerçaient leur ministère de gérer le sacerdoce. Il y avait des critères, il y avait des âges, après, c'est pas avant un certain âge. Puis, à un moment donné, ils mouraient, puis mais ça prenait d'autres pour les remplacer. Alors, leur ministère n'était pas permanent, c'était un ministère temporaire tant qu'il était en service. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, alors là, de qui il parle de Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Okay, alors, est-ce qu'il y a encore des Lévites aujourd'hui? Non, il n'y a plus de Lévites, on n'en a plus besoin, parce que le souverain sacrificateur qui est encore là aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puis, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'il demeure éternellement, puis que son sacerdoce n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Est-ce que Christ est encore à la croix? Quand on voit une croix, une simple croix, est-ce que vous avez de la misère avec ça? Moi, j'ai pas de misère avec ça. Si vous voyez une croix avec Jésus cloué sur la croix dessus, un crucifix, est-ce que vous avez de la misère avec ça? Oui, moi j'en ai de la misère avec ça, parce que Christ, il n'est plus sur la croix, Christ, il est au ciel. Est-ce que le sacerdoce lévitique est encore utile? Non. Parce que quoi, on a lu tantôt qu'il n'a rien amené à la perfection. Ça enlevait pas le péché, ça faisait juste le cacher. Est-ce que le sacerdoce de Jésus-Christ est transmissible? Non, je viens de le dire. Est-ce que l'apôtre Pierre est le successeur du Seigneur Jésus? Il n'y a pas besoin de successeur. Il est toujours là, le Seigneur Jésus. C'est toujours lui, le souverain sacrificateur. Il est toujours présent. Il n'y a pas besoin de successeur. Est-ce que le sacrifice du Seigneur Jésus, il a besoin d'être renouvelé? Est-ce que tous les dimanches matins, on a besoin de renouveler? Quand on se réunit comme ce matin, est-ce qu'on se réunit pour renouveler le sacrifice du Seigneur Jésus? Aucunement. On n'a pas besoin de renouveler ça. C'est un sacrifice parfait. Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. On continue dans Hébreux 7, les versets 26 et 27. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent et sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés. Est-ce que le Seigneur Jésus a besoin d'offrir des sacrifices pour ses propres péchés? Aucunement, parce qu'il est sans péché. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Il est saint, innocent et sans tache. Il s'est offert lui-même. En effet, verset 28, Hébreux 7, 28, en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils parfait pour l'éternité. L'agneau de Dieu, il est parfait pour l'éternité. Hébreux 8, verset 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de sa majesté divine comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. On a un souverain sacrificateur qui est parfait. Ouf! Ça fait compliqué, me semble. C'est compliqué. Pourquoi Dieu est-il intervenu depuis le début de la création? Pourquoi tout ce système de sacrifice, le sacerdoce, pourquoi est-ce qu'il a fallu que ce soit si compliqué que ça? Pourquoi, pendant tous ces millénaires-là, on voit Dieu intervenir pour tourner les regards vers Christ, comme l'apôtre Paul l'a dit, que la loi est un pédagogue pour nous amener à Christ. Pourquoi Dieu est intervenu? Pourquoi Dieu a eu besoin d'intervenir pendant tous ces millénaires-là pour tourner nos cœurs vers lui? Parce que l'homme a une nature pécheresse. Parce que le cœur de l'homme est rebelle. Parce qu'encore aujourd'hui, malgré tous les moyens que Dieu a pris, l'homme résiste encore à l'appel de Dieu. L'homme résiste encore à l'appel de Dieu. Le Seigneur Jésus, il a dit, « Entrez par la porte étroite. Le passage pour rentrer, le passage du salut, il est étroit. C'est pas parce que c'est du côté de Dieu que c'est étroit. » C'est parce que c'est du côté de l'homme. C'est étroit parce que l'homme est rebelle. Dieu nous offre un salut parfait, un salut éternel, un salut gratuit. Jésus, il n'est pas resté dans la tombe, il est vivant. Dieu s'est fait homme, il est venu comme l'agneau. Jean-Baptiste, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Qui cache le péché du monde, qui couvre le péché du monde, qui ôte le péché du monde. La parole de Dieu nous dit que lorsqu'on a Christ comme sacrificateur, lorsqu'on a accepté Christ comme sacrifice pour nos péchés, lorsqu'on a accepté que Christ devienne l'agneau sacrifié pour nos péchés, lorsqu'on accepte ça, Dieu ôte notre péché. Dieu ôte notre péché passé, présent et à venir. Alors, refuser ce salut-là, c'est insensé. Refuser ce salut-là, ça va avoir des conséquences éternelles. Alors, Dieu, il a utilisé toutes sortes de moyens. Il est intervenu dans l'histoire, dans la vie des patriarches, des hommes de Dieu, pour nous mener à Christ, pour qu'on tourne nos regards sur Christ. Alors, que Dieu bénisse sa parole, puis que Dieu, si aujourd'hui, je n'ai pas accepté Christ comme mon sauveur personnel, si aujourd'hui, je n'ai pas la conviction que si je meurs aujourd'hui, je vais aller directement au ciel, parce que Christ il a payé ma place, parce que Christ il a ôté mes péchés, parce que quand je vais me présenter devant Dieu, Dieu il verra pas mon péché, Dieu il regardera pas mon âme, Dieu regardera pas ma vie avec les péchés que j'ai faits, Dieu va regarder à Christ, puis je vais être admis dans la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.